Notre invité aujourd'hui dans ce talk show exceptionnel est Samuel Sandler. Samuel Sandler qui a écrit un livre qui s'appelle Souviens-toi de nos enfants aux éditions Grasset. Et il est également le papa de Jonathan Sandler et de ses petits-enfants qui ont été assassinés lors de l'attentat de Toulouse. Monsieur Sandler, bonjour.
Bonjour.
Je peux vous demander ce que vous faisiez le 12 janvier à 7h59?
Le 12 janvier,
Le
19 mars.
19 mars, tant pour moi.
Alors, je peux vous dire exactement, j'étais à mon bureau. Je suis ingénieur dans l'aéronautique, donc j'avais mon bureau qui était à Buc-Buc, c'est la banlieue sud de Versailles. Il était à peu près 8 heures, j'étais au téléphone et je vois sur mon écran de téléphone que Eva, ma belle-fille, m'appelle. Alors, j'avais en tête tout simplement que la veille. La dernière fois que j'ai parlé à Jonathan, il m'avait annoncé qu'il viendrait passer Pessard à la maison. Et je pensais qu'Eva voulait avoir des précisions sur comment on allait faire Pessard, etc. Donc j'étais déjà pris avec quelqu'un. Je dis, bon, ben, elle attendra 2 minutes, etc. Et je vois en permanence Eva s'afficher. Il va s'afficher. À un moment, je dis, tiens, il doit se passer quelque chose. Je réponds. Et à ce moment-là, c'était très bref et laconique. Eva me dit, Jonathan est mort. Donc je me suis levé. Je n'ai pas écouté la fin de la conversation. J'ai dit à ma secrétaire, écoutez, je pars, j'ai un souci, donc un attentat à Toulouse, et je me suis dirigé vers Orly, prendre la première navette pour Orly.
Il y a quelque chose qui semblait avoir un pressentiment ou quelque chose ou pas du tout.
Alors, de ma part, non, mais il y a quelque chose qui s'est passé qui était un peu bizarre. C'était la veille, c'était donc l'avant-veille, Shabbat, parce que ma fille habitait Montrouge et elle voulait passer Shabbat chez nous, donc à Versailles le Chênaie. Et ce jour-là, enfin pour nous, pour les grands-parents, on était heureux d'avoir nos petits-enfants, les enfants de ma fille. Le matin, moi, c'était Shabbat, donc je vais à la choule et je reviens toujours par le même chemin. Et ma femme, ma fille et les petits-enfants allaient à ma rencontre. Puis on ne s'est pas rencontrés, on ne sait pas pourquoi. Et ma femme a eu un malaise. Un malaise que personne ne comprenait, elle se sentait très mal. Et c'était un malaise, on ne comprenait pas parce que tout était pour notre bonheur. On avait nos enfants, nos petits-enfants, tout le monde, etc. Et plus tard, le psychiatre qui l'a suivi a dit, mais c'est un moment
De stress, de panique.
de stress, elle appréhendait quelque chose, on ne savait pas quoi, mais c'était un signe d'appréhension parce qu'il n'y avait aucune raison qu'elle se sente mal. Alors c'est peut-être l'instinct maternel, etc.
Quand vous étiez dans l'avion, vous pensez que seul Jonathan était décédé, que vos petits-enfants
Oui,
étaient...
c'était pas clair. Je savais qu'il s'était passé quelque chose avec les petits-enfants. J'avais pas compris Eva sur le moment. Et je croyais, jusqu'au moment où je suis rentré donc, dans l'école, c'est d'ailleurs Joël Mergué qui était déjà arrivé, qui me dit Gabriel, je pensais que Gabriel était blessé. Et c'était pas le cas.
Quand vous êtes arrivé, il y a déjà beaucoup de monde sur place.
Oui, alors, donc moi j'ai pris la navette. Et donc après, il y a des gens dans l'avion qui me disent, ben, on se rend vers l'école si vous voulez venir avec nous, parce qu'ils avaient des enfants ou des cousins, je ne sais plus trop quoi. Et arrivé devant l'école, évidemment, il y avait beaucoup des ambulances, la police, etc. Et moi, j'avais une seule chose en tête, voir les enfants, voir les enfants. Je vous dis, j'ai toujours été un peu dans le déni. Je voulais voir mes enfants. Et quand j'ai vu toutes ces ambulances, je me dis, bon, ben, on m'a raconté des histoires, ils sont vivants, c'est pas possible. Il y a les ambulances, on vient pas si malheureusement ils se sont tués, c'est pas des ambulances qui sont là. Et donc, je cherchais partout, partout, jusqu'au moment, dans toutes les pièces. J'étais seul, hein, j'allais de pièce en pièce, je voyais de la police, des gens qui se réunissaient, etc. Et à ce moment-là, j'ai croisé Joël Mergui. Et on se connaît bien, et il me dit, mais écoute, non, non, je vais demander Gabriel où il est. Il me dit, Gabriel est décédé. Et il m'a pris par la main et il m'a dit, viens voir le président de la République. Et donc, c'était M. Nicolas Sarkozy qui m'avait accueilli dans un débarras. Et là, c'était pareil, c'était quelque chose de totalement kafkaïen parce que je sentais une souffrance dans ses yeux, dans son regard, dans son visage. Et moi, je refusais. Je refusais de croire ce qu'il me disait.
Mais vous à la fin, vous avez suivi la suite de l'histoire, d'aller chez le terroriste et tout ce qui s'est passé après, la suite, l'enquête, vous l'avez suivi ou ça a été pour vous quelque chose de totalement étonnant?
Alors, en fait, j'ai rien suivi du tout parce que je me suis fait porter par les événements. En ce sens que, au bout d'un certain temps, à l'école, on me dit ben écoutez, allez, la police l'a appelé. Alors on est allé, je ne sais dans combien d'hôpitaux. J'étais jamais le bon hôpital, etc. Et après me dit ils sont là. Et je suis resté. J'ai retrouvé dans la salle d'attente donc de Grand Rabbin de France, qui était Grand Rabbin Bernheim. Et je savais que le rabbin Harold Weil était dans l'hôpital et n'a pas quitté les enfants de la journée. Je suis profondément reconnaissant parce que vous voyez bien, il y avait donc la police, les médecins, etc., voulaient faire des autopsies. Il a veillé toute la journée auprès de mes enfants. Et en fait, la seule chose, moi j'étais là, j'attendais. Je me suis fait porter par les événements. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Personne ne me parlait. J'étais un peu isolé. Et j'ai pu voir, oui, j'ai pu encore embrasser mon fils.
Le moment qui m'a étonné chez vous, c'est le jour où il y a eu le premier président et le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui est venu à Toulouse. Pour vous, c'était un acte important. Ça vous a un peu, on va dire, adouci de voir le premier ministre israélien venir?
Non, enfin, rien ne m'a jamais adouci. Mais de manière générale...
Rien du tout.
Non, rien. La seule chose qui me permet encore une fois, c'est le livre, parce qu'il me permet de parler des enfants. C'est tout ce qui me reste. Par contre, oui, je suis beaucoup très reconnaissant d'une part du geste du premier ministre de l'époque, et je dois dire de l'État de manière générale. Là, c'était le président de la République. J'avais rencontré auparavant le président Sarkozy à l'école, le président à l'époque François Hollande, est allé au cimetière après. Il est allé à Givat Shaul, il s'est recueilli sur les tombes. Et je dois dire que l'État, de manière générale, autant l'État israélien que l'État français, a vraiment été près de moi.
Il y a une question que je voulais vous poser. Quand on vous entend à la radio, à la télé, ou en écrivant un livre, est-ce qu'il n'y a pas un voile de pudeur qui se lève chez vous? Vous trouvez ça...
Oui, c'est possible.
Non,
oui,
c'est une question que je vous pose.
Oui. Bon, parce que je crois que il y a des choses... Les relations avec les enfants, c'est quelque chose d'intime. Et oui, je veux garder pour moi une certaine intimité. Oui, c'est vrai.
D'accord. Vous avez des rapports avec les autres parents qui ont vécu ça? On parle de M. Senouf, de Mme Zlaté.
Oui. Alors, oui. Il y a deux choses. D'abord, avec le directeur d'école, le Ramon Sonego, oui, on se voit de temps à autre. Pas beaucoup. Je pense que c'est très dur, parce que encore une fois, il avait fait venir les enfants donc d'Israël. Je dois beaucoup. Jonathan devait beaucoup à Ramon Sonego. Il l'a beaucoup aidé lorsqu'il était en seconde et première. C'est pour ça que Jonathan voulait revenir à Toulouse pour rendre ce que l'école lui avait apporté.
Il était à Toulouse, Jonathan.
Oui. Ouais. Oui. Mmh. Ben, pour une raison simple, mes enfants étaient scolarisés à Paris à l'école Maïmonide, et c'était des classes de 35 élèves, et Jonathan avait besoin d'avoir une école à petit effectif, très petit effectif. Et c'est vrai, il avait quelques difficultés à arriver à Otsara Torah, arriver en première, ben, il était très bon élève. Donc c'est ce qu'il lui fallait. Et c'est son désir, quand le Ramon Sonego l'a recontacté pour revenir, il voulait rendre à l'école ce que l'école lui avait apporté. C'est pour ça qu'il avait accepté de quitter Jérusalem, où il habitait, où il avait un travail.
Vous,
j'ai pas terminé sur les relations. Donc avec, la seule. Alors, j'ai rencontré les différentes victimes, donc les parents des militaires. Surtout pendant les procès, il y a eu deux procès, du frère de l'assassin, un procès et le procès en appel. Et depuis longtemps, j'étais en contact avec Madame Latifa Benziaten. Et c'est vrai que parce que on a eu l'occasion de participer à des interviews en commun, des tables rondes en commun, etc. Les autres parents, je les ai vus au procès. De temps à autre, je croisais M. Chemnouf. Mais vous savez, on n'est pas préparé à ce genre d'événement et chacun réagit à sa manière. Il ne faut pas dire qu'un tel est comme ça, un tel est comme ça. Pour ma part, j'ai beaucoup rencontré Mme Latifah Ben Ziaten et on a fait des choses ensemble.
Parce que finalement, M. Chemnouf, Mme Ziaten et vous-même, continuez à porter.
Chacun réagit à sa manière. Je crois qu'il ne faut pas dire un tel réagit comme ça. C'est, on n'est pas prêt à ça. Y a aucune, heureusement d'ailleurs, mais on n'est pas prêt. Donc chacun réagit comme.
Dans le livre, vous ne citez pas une seule fois le nom du terroriste.
Non, jamais. Jamais, parce que si je cite son nom, c'est que quand on a un nom, on a une étincelle d'humanité, ce que je refuse pour ce. Je ne dis même pas que c'est un homme, c'est un déchet de la nature.
Dans l'interview qu'on a fait lundi, vous avez beaucoup appuyé sur le déni de la mort de vos enfants. Encore aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de faire le deuil de vos enfants et de vos petits-enfants?
Parce que quand parfois je tombe sur des photos, la souffrance, elle est là. Tout d'un coup, quand je me rends compte que de réalité du drame. Et quelque chose de très particulier, parce qu'il y a quelque chose d'hors norme. Et c'est en ce sens je suis dans le déni. Comme toutes les bonnes familles ashkenazes, j'ai à la maison un Sefer Chaim, donc c'est ce livre qu'on ouvre quand on va au cimetière, etc. Et donc, il y a marqué dedans toutes les pages, quand on va sur la tombe d'un grand-père, d'une grand-mère, sur la tombe d'un enfant, il n'y a rien. Ça n'existe pas qu'on aille sur la tombe de petits-enfants. Je suis très marqué par cette exception qui m'est arrivée, les deux petits-enfants.
Mmh. Je crois que vous en aviez trois de la part de Jonathan.
Oui, il y a Liora qui a maintenant 9 ans, elle habite Jérusalem.
Mmh. Comment ils réagissent ou elle réagit par rapport à cette affaire, elle sait ce qui s'est passé, ou elle était trop petite ou...
Alors, c'est très délicat, parce que j'ai tellement peur de faire d'un père avec elle que j'en... Alors, j'ai simplement deux anecdotes à vous citer. C'était il y a une anecdote où elle devait avoir 4-5 ans. Donc, elle a pris l'avion. Alors, je ne sais plus si c'était pour aller en Israël ou revenir d'Israël. Et elle a dit à sa maman, « Ah, on monte dans l'avion, donc on va aller voir papa et mes frères. » Parce que, c'était au ciel. C'est une réflexion d'enfant qui m'a beaucoup touché. Et une autre fois, c'est comme ça, j'ai beaucoup filmé. J'aimais filmer mes enfants et mes petits-enfants. Et j'avais demandé à ma belle-fille Eva, est-ce que je peux montrer des films où on voit Jonathan, Harry et Gabriel. Elle m'a dit, vous pouvez. Et donc, Laura a commencé à regarder. Au bout de 5 minutes, il dit, non, je ne veux plus regarder. Maintenant, je veux les voir en vrai.
Harry, Gabriel, Jonathan, Myriam, je vais vous poser une question qui est peut-être à vous comme ça. Le terroriste a filmé ses exécutions. Vous avez vu ce film?
Non, je n'ai pas vu.
Pas voulu, pas pu.
Comment?
Vous n'avez pas voulu, pas pu.
D'abord, il est sous séquestre, sous scellé, pardon. Alors, je vais vous dire quelque chose, parce que dans le procès en appel... C'est surtout l'avocat, Maître Spinner, voulait qu'on voit une partie de ce film pendant une minute, je crois 25, un peu. C'est très très minuté. Pourquoi? Parce que le fils de Mme Ben Ziaten, donc le premier soldat assassiné, donc ils avaient rendez-vous pour l'achat d'une moto. Et donc Imadi Ben Ziaten demande donc à l'assassin, mais qui est avec toi sur la moto, il répond, c'est mon frère. Et donc, ça permettait d'inculper donc le frère qui faisait que mentir. Et à la fin, il a demandé à ce qu'on voit cette scène. Et moi, je suis sorti parce que je voulais être près de la famille Ben Ziaten, qui, eux, sont sortis, donc je voulais être solidaire d'eux. Et je ne voulais pas voir le film, parce que je me suis dit, c'est à travers cet objectif qu'on a filmé l'assassinat de mon fils et de petits-enfants, je ne voulais pas voir.
J'ai eu, il n'y a pas longtemps, au téléphone, un réalisateur qui s'appelle Moussa Ben Sesson, qui a réalisé un documentaire sur Toulouse après les attentats. Et il me disait que dans les quartiers de Toulouse, dans les quartiers, on va dire, les cités, le terroriste est comme un héros.
Oui.
Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous atteint ? Ça voudrait dire que finalement, on a tué...
Pour moi, c'est l'incompréhension. Je sais très bien qu'il est considéré dans certains quartiers comme un héros. Et oui, ça m'atteint. Et je souhaitais immédiatement que le film soit sous-scellé, parce que j'avais imaginé qu'on pouvait projeter ce film et que des gens dansent autour de film à la vue de l'assassinat de mes petits-enfants. Donc,
Monsieur Benayoun, on verra le film sur France 3 en février, me disait qu'en réalisant le documentaire, il était devenu très atteint parce que finalement, on savait ce qui se passait. Mais l'intensité, la façon dont ça se passe, l'a un peu troublé. Vous aussi, ça vous trouble qu'un certain nombre de gens, le trouvent comme un héros. Est-ce que ce n'est pas une façon un peu, entre guillemets, de cracher sur la mémoire de vos enfants et vos petits-enfants ?
Oui, c'est comme ça que...
Vous voyez.
C'est comme ça que je le ressens. Mais... Vous savez, c'était il y a un mois, on est inauguré à Toulouse dans un square, le square Edmond Michelet, une allée qui s'appelle une allée Monsonego-Sandler. Mmh. Alors j'avais pris la parole et j'avais fait la remarque suivante, c'est que bon, j'étais ingénieur dans l'aéronautique et donc j'allais à ce titre-là souvent à Toulouse. Mmh. Et pour moi, au-delà de la technique première, l'aéronautique c'est tout de même le but ultime, c'est de rapprocher les gens à travers les frontières, à travers les montagnes, à travers les mers. Mmh. Et quelque part, donc, on ressent à Toulouse, par certaines personnes que je vais citer, exactement la réaction inverse, la haine. Et ce que je trouve un peu... pas scandaleux, mais ce n'est pas possible, c'est à Toulouse, avec l'actuel imam. Il a été sur Internet, on avait constaté qu'il tenait des propos antisémites. Mmh. Et il est mis en examen. Mmh. Il est toujours à la mosquée, il est toujours présent. Et quand on est imam de Toulouse, certes, on peut toujours trouver des textes, mais on peut un peu avoir de pudeur ou de retenue, ce qu'il n'a jamais eu. Donc c'est vraiment à l'opposé, si vous voulez, le rapprochement des hommes, par son attitude, c'est vraiment la haine de l'autre. Et ça, ça m'atteint beaucoup que cet homme-là soit encore à Toulouse, imam.
Vous allez souvent encore à Toulouse ?
Non.
Oui ?
Non, j'évite au maximum d'aller à Toulouse. Et j'ai pris ma retraite qu'il y a 2 ans, et quand pour des raisons professionnelles, j'allais à Toulouse chez Airbus, dès que ma réunion était terminée, je prenais le premier avion pour rentrer.
On parle beaucoup de Jonathan et de ses enfants, mais il y a une personne que j'ai trouvée très digne, outre vous, les parents, c'est la femme de Jonathan, Eva, qui a été très digne tout au long de ces moments. Vous lui parlez souvent, il y a des longues discussions avec elle, où ça c'est un peu cassé avec le...
Non, pas du tout. Enfin, on a des relations tout à fait... presque comme si de rien n'était, on continue à avoir les mêmes rapports, on s'échange encore ce matin, j'ai reçu des textos de sa part, oui, on s'appelle tout à fait régulièrement, on a des nouvelles de Liora, inversement de... Non, on a toujours continué, elle a un peu refait sa vie.
Oui,
c'était dur, c'était très dur, mais enfin bon, c'est la vie, c'est comme ça, mais on a toujours gardé, ma femme en particulier, enfin moi aussi, mais on l'appelle souvent, oui.
Mmh. Vous avez dit que vous avez écrit le livre « Souviens-toi de nos enfants ». Je vais vous poser la question, mais quand le livre sera épuisé, il n'y aura plus dans 1 an ou 2 ans, on n'en parlera plus. Qu'est-ce que vous allez faire pour continuer à vous souvenir de vos enfants ?
Alors, écoutez, je ne suis pas éditeur, je ne sais pas si peut, une fois qu'il soit épuisé, je ne sais pas s'il n'y avait pas... On m'a déjà parlé, peut-être qu'il y aura une deuxième
En tout cas, je peux vous dire que sur
Même
Amazon, il
si.
ne restait plus
Ah
qu'un
bon?
ouvrage
Ah
de
bon?
vous, voilà.
Ah bon, je ne sais pas.
Et
Voilà.
dans un an ou
Et
2 ans, vous.
ben écoutez, je ne peux pas vous dire pour le moment. C'est vrai, écoutez, moi je suis assez attaché à ce que de temps à autre, il y a eu des places, des inaugurées. Mais parce qu'il y a quelque chose. Enfin, c'est comme ça depuis ce jour-là. À chaque période du temps, il y a quelque je suis travaillé, obsédé par certaines choses que je découvre. Alors c'est vrai que parfois on me ressort, tiens, vous aviez dit ça il y a 2, 3 ans, j'avais complètement oublié. Et en ce moment, il y a un point qui me chagrine beaucoup parce que je l'ai appris à travers les procès. Je m'explique. Donc, à travers le procès en appel, j'ai appris que en fait, Jonathan, d'une certaine manière, avait peut-être sauvé l'école. Pourquoi? Bah parce que l'assassin est venu avec un seul objectif, c'est tuer des enfants. Donc il avait une mitraillette Uzi automatique, et il a d'abord abattu Harry, et Jonathan est allé au-devant, au lieu de
Se cacher.
se cacher, il est allé au-devant pour faire taire pour le faire taire, pour faire taire. L'assassin, donc il a été abattu et l'arme s'est enrayée. Et donc il est retourné à son scooter pour prendre un simple pistolet. Avec lequel, naturellement, il a abattu malheureusement la petite Myriam et Gabriel. Mais imaginez simplement s'il avait encore cette arme automatique, quel carnage il aurait pu faire. Et personne n'en parle. Il a sauvé l'école. Peut-être sans le faire exprès, mais il est allé au-devant. C'est un silence, ce silence, parce qu'il a donné sa vie pour sauver l'école. Et ce silence me pèse.
Il y a aussi autre chose qui m'étonne, c'est que finalement, ce qui s'est passé, qui était un acte grave, soit très très vite oublié. Il y a des gens qui pensent que c'est au siècle dernier, alors que c'était il y a quelques années.
Ouais.
C'est quelque chose qui vous semble normal dans la vie d'aujourd'hui, d'oublier rapidement, de passer à autre chose?
Bah écoutez, je crois que non, c'est un peu plus compliqué que ça parce que malheureusement, chaque attentat efface le précédent. Et alors, il y a quelque chose, c'est qu'à chaque attentat, on se réfère à celui de Toulouse. Donc, chaque attentat efface en partie
Et de relancer.
et relance à nouveau Toulouse systématiquement parce que c'est la référence de ce type d'attentat à chaque fois. Voilà. Mais en fait, il y a pire. Malheureusement, même quand on me présente parfois, même dans des fêtes où je vais à une bar mitzvah, etc., quelqu'un me dit, tiens, vous connaissez pas Sandler, la famille Sandler, etc. Très souvent l'interlocuteur, bon non, on ne sait pas. On dit le nom de l'assassin, ça y est. Je crois que c'est ce qu'il y a de pire. Surtout quand vous allez dans des milieux juifs. Quand vous voyez les gens, ils retiennent le nom de l'assassin et pas. Il y a tout de même eu 300 de l'air, hein, ça fait beaucoup.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de Jonathan, de Harry et de Gabriel? On va clore l'interview dans 2 minutes. Qu'est-ce que vous voulez que les gens à la fin de l'interview se disent après cette interview? Qu'est-ce que vous voulez garder comme image de ces trois personnages? En un mot.
J'ai essayé. D'abord Jonathan, parce que Jonathan a écrit. Malgré son jeune âge, à l'époque, il faisait des commentaires toutes les semaines sur la Sidra de la semaine dans le journal Contras. Et donc, on a relié tous ces commentaires. Ils sont parus sous. L'éditeur était Contras, aidé par la communauté de Versailles à l'époque, pour son édition. Alors j'aimerais bien, de temps à autre, ben, qu'on se souvienne de ces commentaires, parce qu'ils sont pleins d'espoir. Plein d'espoir et c'est dur parce que parfois il répond même à ce qui après est arrivé. Il dit on comprend pas pourquoi, mais un jour on comprendra pourquoi toute cette souffrance. Et il le dit souvent dans beaucoup de ses commentaires. Harry Gabriel, ben c'est difficile et ce sont des petits enfants de 5 ans. Pas beaucoup de gens l'ont vu. Harry, c'était surtout un garçon, encore une fois, je vous dis, ce voyage qu'on avait fait, nous les grands-parents avec notre petit-fils qui était toujours souriant et il aimait beaucoup beaucoup qu'on lui raconte, il disait lui-même des blagues, ce mot blague qui revenait toujours. Mmh. Et puis de Gabriel, mais c'est très personnel encore. Parce que, bon, il avait 3 ans, il faut bien voir qu'ils habitaient Jérusalem, donc on se voyait qu'au moment des vacances, quelques jours. Alors, ben, c'était son humeur, son sourire, et puis son amour pour les bonbons.
Voilà. Merci beaucoup à Samuel Sander d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ça doit être des fois un peu difficile de revenir sur cette période. Je vous remercie de l'avoir fait avec toute...
Donc, encore une fois, c'est ce qui me reste. Et plus je peux parler de mes enfants, plus ça m'aide, plus c'est pour moi un réconfort.
Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci.